Mais alors, Dubuano s'est fait descendre et son excellence Benarcha a disparu, mon colonel.
Conversation secrète, Philippe Vasset, Pierre Gatineau.
Non, mais avouez que vous êtes doué. On le suit pas à pas depuis des années. Nous savons qu'il doit livrer des roquettes à la rébellion sud-asiatique et qu'il doit inonder les Caraïbes de mortiers lourds. Et c'est le moment que vous choisissez pour le perdre.
Aujourd'hui, et les barbouzes devinrent des espions, la France.
Alors ?
Mes respects, monsieur le président. C'est confirmé. Son excellence Benarcha a disparu.
Félicitations.
En anglais, en allemand, même en russe, le vocabulaire de l'espionnage est français. À Londres comme à Moscou, on parle d'agents, de services et de couverture. Mais si tous les espions parlent un peu français, tous les Français ne pratiquent pas l'espionnage, loin de là. C'est même l'inverse. Les espions français ont longtemps été ravalés au rang de pitres, façon OSS 117, ou de barbouzes aux manières expéditives. Pour cette émission qui vient clore notre tour du monde estival de l'espionnage, nous voulions nous pencher sur ces fonctionnaires qui ont eu le plus grand mal à valoriser leur contribution secrète à l'histoire de la République.
Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin,
bon ben,
dit Talon Rouge.
On va plus à Plougastel.
Dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belle Châtaigne. C'est curieux comme les gens sont méchants.
Loin de traiter d'égal à égal avec le politique, comme c'est le cas au Royaume-Uni, ou de se confondre avec lui comme en Russie ou en Algérie, le renseignement en France a longtemps été tenu à bout de gaffe par les gouvernants. Jean-Claude Cousserand, qui fut le directeur de la DGSE de Jacques Chirac au début des années 2000 et a, dit-on, l'oreille d'Emmanuel Macron aujourd'hui, l'explique sans embâge.
Le cas français est en effet un peu particulier parce que ça date d'il y a longtemps, au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu déjà des critiques assez fortes sur l'idée d'utiliser des méthodes de renseignement, des méthodes d'espionnage, des méthodes jugées non conformes. Il y a une phrase du XIXe siècle intéressante, c'est le recours d'un pouvoir faible. C'est assez caractéristique comme phrase. Et puis, il y a un élément très caractéristique dans le système français, comme le renseignement a souvent été quelque chose de militaire, c'est que l'idée que l'espionnage était contraire à l'éthique militaire et au code d'honneur de l'armée, et que c'était quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui n'a pas disparu, quelque chose de réel, et il y a un certain nombre de militaires qui disent très, très fermement que ça ne correspond pas à leur code ou à leur manière de concevoir. En effet, le combat fut-il important et essentiel à notre sécurité. L'amiral Lacoste disait, il y a aussi beaucoup d'éléments négatifs. Il y a l'affaire Dreyfus, dans laquelle les services de renseignement n'ont pas l'attitude qu'on peut attendre dans une structure d'État. Il y a la défaite de 40 qui pèse. Il y a les soubresauts de la guerre d'Algérie. Plus près de nous, il y a l'affaire du Canard, l'affaire Clistream. Il y a donc une séquence, effectivement, négative. Il y a aussi des éléments de fierté. La guerre de 14 a montré que les services avaient bien fait leur travail. Il y a eu tout un moment où il y avait beaucoup d'admiration dans le système français pour la qualité de la cryptographie. Les majors de l'X allaient dans le OB2 parce que c'était là qu'on faisait la meilleure recherche. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui sont aussi positifs. Plus près de nous, le CE, le contre-espionnage, a été un élément de important, dont tout le monde disait qu'ils avaient une technique, une capacité qui était très remarquable. Et donc, encore une fois, il y a des fiertés, il y a des éléments négatifs, et il y a globalement une espèce de culture, en effet, qui passe pas tout à fait, qui est difficile, dans laquelle les pouvoirs ont, à l'égard des services, une attitude un peu, en effet, de défiance. Et c'est lié au fait que il n'y a pas dans le personnel politique effectivement une formation, une culture du renseignement, une préparation, une connaissance des mécanismes, des résultats et du fonctionnement, qu'il y a plusieurs services, qu'il n'y a pas de communauté formelle du renseignement. tout un ensemble de choses qui font qu'effectivement, globalement, en France, l'image, disons que c'est une image mêlée. Et une image dans laquelle il y a en effet quelque chose qui ressemble à une interrogation, au moins, de l'État vis-à-vis de ses services, qui sont des services essentiels, mais pour lesquels le pouvoir politique a en effet un peu de réticence.
Il est rejoint en cela par le maître espion et ami de François Hollande, Bernard Bajolet, qui a dirigé la DGSE pendant le dernier quinquennat et que nous avons eu l'audace de déranger dans sa retraite au cœur de la canicule.
D'abord, il y a une question de culture. En France, il n'y a pas une culture du renseignement aussi ancrée qu'en Grande-Bretagne, où le renseignement a toujours été très attrayant pour des jeunes issus des grands collèges britanniques, des public schools. Mais en France, outre la culture, cette méfiance un peu traditionnelle vis-à-vis des services de renseignement, il y a eu aussi, il y a assez longtemps, hein, un certain bricolage, un certain artisanat dans le renseignement, un certain manque de professionnalisme qui a donné lieu d'ailleurs à des incidents, dont le plus connu est le Rainbow Warrior, hein. Et donc, ceci faisait que le service était relativement peu attractif, y compris au sein des forces armées, et qu'on a eu pendant plusieurs années une qualité relativement médiocre des agents.
Dans son bureau du Parlement européen de Strasbourg, le député Arnaud Danjean, l'un des rares vétérans de la DGSE à s'être aventuré dans l'arène politique, va plus loin.
Je pense que la plus grande difficulté était une difficulté beaucoup plus structurelle, qui était la non-intégration, ou l'intégration très insuffisante et très partielle de la DGSE, et j'allais dire des services en général, en tout cas de la communauté du renseignement, leur mauvaise intégration dans le système français, le système administratif et politico-administratif français. C'est-à-dire, vous aviez vraiment, et dès que vous entriez, vous le sentiez quasiment physiquement, avec cette entrée à la piscine, boulevard Mortier, vous sentez immédiatement cette espèce de relégation aux marges du système administratif français. Alors que vous avez l'impression d'y être au cœur, d'une certaine façon, et en fait, vous êtes complètement à la marge. Et c'est particulièrement flagrant pour une génération comme la mienne, puisque bénéficiant de cette ouverture vers les recrutements civils, nous avions la possibilité de comparer avec des collègues. Moi, j'avais fait Sciences Po, les collègues de Sciences Po, qui choisissaient d'autres voies administratives, et qui, eux, entraient immédiatement, alors certains après avoir fait l'ENA, d'autres après avoir fait simplement Sciences Po et une spécialisation, ce qui était mon cas, entraient dans d'autres administrations au sein des seins de l'appareil d'État. Alors que nous avions immédiatement l'impression et la vision, j'allais dire, physique d'une relégation. Et ça, je pense que c'était ce qui était le plus difficile structurellement pour la DGSE, c'est-à-dire d'être un peu aux confins du monde politique administratif français, avec un fort sentiment de relégation, d'infériorité d'une certaine façon, que nous essayons sans doute d'embellir en disant oui, mais si on a un statut à part, c'est aussi pour de bonnes raisons. Mais en fait, à l'époque, il y avait quand même, je pense, tout ça procédait d'une forme de volonté du pouvoir politique et de l'administration en général de tenir les services sulfureux, entre guillemets, le plus loin possible du centre du pouvoir.
Contrairement à leurs homologues américains ou russes, qui ont toujours été au cœur du pouvoir, les espions français ont dû conquérir, parfois de haute lutte, leur place dans l'appareil d'État.
Ça a été progressif. Je crois que une période où le service s'est beaucoup redressé, c'est la période des années 90, avec notamment Claude Zilberzane. Il faut lui rendre cet hommage, qui a été le patron de la DGSE après le Rainbow Warrior, quelques années plus tard, qui a remis le service en ordre. Je crois que ça a démarré là. Hein. Et puis il y a eu d'autres, par exemple, Pierre Brochand, qui a aussi beaucoup fait à la tête de la DGSE, et notamment pour le doter de ce qui est un de ses principaux atouts, c'est-à-dire le côté intégré, où on intègre le renseignement humain, le renseignement technique,
Et le renseignement opérationnel, c'est celui qu'on va chercher à main nue, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose de progressif. Et il y a eu un effet d'entraînement, c'est-à-dire que plus la DGSE était bonne, eh bien plus elle attirait des personnels de qualité, à la fois militaires et civils. Et les concours de la DGSE sont des concours difficiles, et dont les lauréats sont des personnes vraiment de très haut niveau.
Il y a
Jean-Claude Cousserand.
Entre le milieu politique et le milieu enseignement, une différence d'approche des problèmes. Et elle est normale, ce sont des gens dont le recrutement, la culture, la manière d'être, les tâches ne sont pas identiques. Et donc, il y a non pas nécessairement une très grande facilité pour se comprendre, se parler. Et donc, il est normal qu'il y ait eu des progrès qui sont... La distance qu'il y avait entre eux a été... En effet, je trouve beaucoup de progrès, parce qu'il y a donc le CNR, le CNCT, il y a aujourd'hui l'information du président est faite beaucoup plus organisée, il y a aussi le plan national de renseignement, qui est un élément tout à fait important et qui cadre les options et la politique et le système de recherche, je dirais le programme de travail des services. Et donc c'est vrai, on a fait beaucoup de progrès, et d'une certaine manière, on a fait évoluer le système qui rapprochait les services de renseignement et le pouvoir politique.
On s'est beaucoup normalisé, à l'instar de la place qu'occupent on n'est pas sans doute arrivé au système britannique, mais on a quand même beaucoup progressé dans le système français en termes d'intégration dans le processus de décision politico-administratif. Il y a des détails très concrets. Pendant très longtemps, tout contact avec une administration extérieure, y compris d'administrations dont on dépendait d'une certaine façon, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, Élysée, c'est-à-dire les destinataires de nos informations, de nos renseignements, pour un rédacteur, ce que j'étais au départ, comme tous les civils qui entrent à la DGSE, pour tous les rédacteurs, c'était quelque chose de totalement mythifié. Vous ne voyiez jamais le bout de la chaîne. Vous produisez vos notes, on vous donne vaguement un retour, parfois on condescendait à vous donner un retour sur la façon dont la note était perçue, par des hautes sphères qui étaient toujours décrites comme quelque chose d'à peu près mythique dans lequel vous n'iriez jamais. Les salons dorés des ministres ou des conseillers des ministres, ça apparaissait extrêmement lointain. Au fur et à mesure, moi j'ai vu ça changer. Les contacts se sont multipliés, se sont facilités, fluidifiés, et il n'était pas rare, après quelques années, que vous puissiez être en lien direct avec des conseillers ministériels, que ce soit à la Défense ou aux Affaires étrangères, qui étaient en prise directe sur votre dossier. Donc ça, c'est un signe très tangible de l'intégration de la DGSE. De la même façon, administrativement, ce qui a été très spectaculaire, c'est le nombre de passerelles qui se sont ouvertes depuis 15 ans. Faire une mobilité pour un fonctionnaire de la DGSE, faire une mobilité dans un des ministères, et un ministère proche, Affaires étrangères, Défense encore une fois, ça relevait du parcours du combattant. Au moment où j'y suis entré, c'était absolument pas envisagé et c'était toujours vécu comme une forme de perte, voire de trahison. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et c'est même plutôt valorisé, et tant mieux. Je trouve très bien que des fonctionnaires de la DGSE puissent aller passer 1 an, 2 ans, 3 ans au Quai d'Orsay sans être labellisés DGSE, mais simplement pour faire une mobilité et revenir ensuite dans leur cadre d'origine. C'était quelque chose qui était extrêmement compliqué à mon époque. Moi-même, quand j'ai quitté la DGSE pour intégrer un cabinet ministériel, puisque c'est un ministre qui m'avait demandé de le rejoindre à son cabinet, en l'occurrence Michel Barnier quand il était ministre des Affaires étrangères, ça avait été la croix et la bannière, ça avait mis 6 mois pour aboutir. Parce que c'était perçu comme quelque chose d'anormal, quelque chose de contrariant pour le service. Et pendant mes 2 années au cabinet ministériel, je n'ai eu aucun contact avec la DGSE. Comme si j'avais été... Je pense que si j'étais parti dans un service étranger, j'aurais peut-être eu plus de considération. Ouais, l'anecdote est assez révélatrice de la façon dont on percevait à l'époque... Ça date, oui, il y a une quinzaine d'années. On percevait le détachement, la mobilité. Voilà. C'était plutôt une punition, si vous voulez. Il y avait des gens qu'on détachait parce qu'on estimait qu'on n'en avait plus besoin. Mais penser que ça pouvait aussi valoriser le service d'avoir des gens qui allaient se balader dans d'autres administrations et qui auraient pu être accueillis dans d'autres administrations, ça a mis du temps avant d'être perçu comme quelque chose de normal, voire de valorisant. On va pas être caliméro, mais quand à l'époque où je suis entré dans cette maison, nous n'étions pas bien considérés par nos interlocuteurs. Nombre de surnoms qui étaient attachés aux fonctionnaires de la DGSE que ce soit à Paris ou dans les ambassades. On dirait, il y avait une forme d'ostracisme qui existait à notre égard. Et du coup, montrer aussi à ces administrations que nous étions des collègues haut niveau, que nous étions des collègues qui n'avions absolument pas à rougir ni de nos qualifications, ni de ce que nous faisions, du contenu de notre métier, je pense que c'était aussi une découverte pour d'autres administrations qui n'avaient pas l'habitude de voir dans leur rang des fonctionnaires issus de la DGSE. Donc je crois que ça a beaucoup contribué, non seulement en termes d'influence, effectivement, en termes de respectabilité du service, de multiplier ces passerelles. Je crois que c'est un des principaux acquis. C'est quelque chose d'assez administratif, finalement, hein, qui touche pas forcément à la substance du travail. Mais en termes administratifs, c'est un progrès considérable, considérable.
Alors tout ceci a beaucoup changé. Ça n'a pas changé un peu, ça a changé complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fil des années, et bien avant d'ailleurs ma prise de fonction, je le précise,
Bernard Bajolet,
un grand effort de professionnalisation très réussi, de formation, de recrutement, qui a attiré des personnels de grande qualité et aussi des moyens techniques qui ont été attribués par le gouvernement dès en fait la période Jospin, donc au travers de plusieurs gouvernements, et qui a fait de la DGSE un service vraiment efficace et très professionnel. Et puis il y a eu aussi la lutte contre le terrorisme, l'encadrement législatif aussi, hein, qui a, je pense, hein, contribué à rassurer l'opinion. Et puis aussi un effort de communication que vous connaissez bien, avec le Bureau des légendes ou les concours destinés aux enfants de l'enseignement secondaire, comme le concours Al-Kindi de cryptologie. Par exemple, aussi, quand on a évoqué pour la première fois avec Éric Rochand le projet de Bureau des légendes, Éric Rochand m'a dit, vous savez, il y a 20 ans, je n'aurais jamais fait une série sur la DGSE. Et d'ailleurs, les Patriotes met en scène le Mossad. Et maintenant, me dit-il, je pense que je peux le faire parce que votre service a acquis une vraie réputation de professionnalisme et dont je peux vous assurer qu'elle n'est pas usurpée.
Bureau des légendes, le mot est lâché. La série d'Éric Rochand est devenue la meilleure vitrine de l'espionnage français et a largement contribué à changer l'image des espions de l'Hexagone, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger, où The Bureau est très regardé dans les cénacles de l'espionnage américain et britannique.
Ma mission, c'était de lier connaissances. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Si c'était le cas, je devais essayer de trouver un moyen de les convaincre de nous donner ces renseignements.
Tu les faisais chanter ?
Non, fais pas chanter les gens, ça marche pas, ça. Non, c'est des gens qui veulent aider la France ou faire avancer leur cause. Moi, mon seul travail, c'était de trouver des gens intéressants, c'est tout.
Tu peux te faire des amis, quoi.
Disons des connaissances.
C'est pour ça que t'es parti 6 ans. Pour faire des connaissances.
T'aurais préféré que je parte pour tuer des gens?
Ouais. Enfin non, je sais pas. Mais c'est cool, hein? T'es parti pour te faire des amis?
Je suis parti parce que c'est mon métier.
Ouais. Bah maintenant je sais.
Mais si la série montre une DGSE professionnelle et opérationnelle, elle ne parle jamais du lien entre le service et sa tutelle politique. Or ce lien, étroit aux États-Unis par exemple, a toujours été problématique en France. Naviguant dans un millefeuille administratif très français, chaque président de la République a une manière bien à lui de traiter avec les services. Bernard Bajolet a accepté de nous éclairer sur son modus vivendi avec François Hollande.
Bon, on se voyait assez régulièrement. Donc je l'informais de ce que je faisais, des réformes que j'avais engagées, mais ceci n'a jamais posé aucun problème. Et en fait, on se voyait soit pour des questions stratégiques, c'est-à-dire des orientations dont j'avais besoin, mais aussi pour des questions opérationnelles. Alors c'est, si vous voulez, pour des sujets particulièrement délicats, parce que pour ma part, je pilotais moi-même des opérations, parce que ces opérations, c'est des choses dangereuses, qui pouvaient être dangereuses pour les personnes qu'on envoyait sur le terrain, mais aussi délicates pour le gouvernement, parce qu'en cas d'échec, ça pouvait avoir des conséquences non négligeables, et donc j'avais besoin, pour un certain nombre d'opérations, de l'aval du président de la République. Et celui-ci, d'ailleurs, pour des opérations vraiment importantes et délicates, tenait à le donner lui-même jusqu'au dernier moment. Et je trouve que c'est comme ça qu'on doit fonctionner avec le politique. C'est toujours le politique qui doit décider, surtout quand des opérations, des actions sont susceptibles, en cas d'échec, comme en cas de réussite d'ailleurs, d'impacter le pouvoir politique. Bon, j'avais donc cette chance d'avoir une relation personnelle avec le président François Hollande, mais pour tout dire, on ne s'envoyait pas des SMS tous les jours. Je n'ai pas le sentiment d'avoir abusé de cette relation, donc j'avais accès au président, que je dérangeais quand c'était vraiment nécessaire, mais seulement quand c'était nécessaire. Et puis, outre le président, je voyais régulièrement la plupart de ses collaborateurs, enfin les principaux d'entre eux, donc le secrétaire général, bien entendu, le chef de l'état-major particulier, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de cabinet, etc. Les conseillers diplomatiques. Et la relation, elle n'est pas seulement avec l'Élysée. Bon, ministère de la Défense, je voyais toutes les semaines à petit déjeuner un des conseillers du ministre de la Défense. Bon, j'ai toujours un peu regretté de ne pas avoir eu des relations plus fréquentes avec le ministre de la Défense. Beaucoup moins fréquentes avec lui que, par exemple, elle ne l'était entre mon collègue de l'Intérieur, le DGSI, et son ministre de tutelle. Bon, je voyais aussi régulièrement le ministre des Affaires étrangères, et quand je ne voyais pas le ministre une fois tous les 15 jours, je voyais son directeur du cabinet. Je voyais aussi régulièrement le ministre de l'Intérieur. Je prenais des petits déjeuners avec Bernard Cazeneuve en tête à tête. Le directeur de cabinet du Premier ministre, voire d'ailleurs assez régulièrement le Premier ministre lui-même. Donc c'est pas une relation exclusive, c'est une relation privilégiée avec le président de la République, chef des armées, la DGSE, n'oublions pas, elle fait partie aussi, non seulement du ministère des armées, mais on a le service action et le 4e régiment d'infanterie, et donc le président de la République est le chef de tout ça. Mais ce n'était pas donc une relation exclusive. La DGSE infusait, si je puis dire, dans l'ensemble de l'administration. Et nos notes, on fait à peu près à la DGSE 7000 notes par an, allaient à l'ensemble des ministères.
Directeur de la DGSE, au moment où Jacques Chirac était contraint de cohabiter avec le Premier ministre socialiste Lionel Jospin, Jean-Claude Couserans tente de théoriser la nature de ce lien si particulier.
C'est le président de la République et le gouvernement qui désignent les chefs des services. Et donc il y a un rapport personnel avec les chefs des services. Et donc ce rapport, le président rencontre. Et quand j'y étais, le président rencontrait, à sa demande, à la demande des services, ou selon l'actualité, les gens qui dirigeaient le directeur général des services, et il le faisait avec d'autres services. C'était des rencontres tout à fait essentielles qui valaient instruction, cadrage et vision. Et c'était un rapport tout à fait fondamental. Alors c'était un rapport qui n'était pas tous les jours, c'était espacé, mais c'était un rapport essentiel. Autrement, il y avait un rapport régulier qui fonctionnait avec le conseiller technique de l'Élysée chargé des questions de sécurité, avec le secrétaire général de l'Élysée. Moi, j'avais Philippin qui était le secrétaire général quand j'étais. Et puis, il y avait de temps en temps des rapports, évidemment, avec le chef de l'OMP, l'état-major particulier, qui était effectivement de temps en temps. Puis, il y avait les rapports avec Matignon, qui est un interlocuteur important, parce que c'est l'interministériel, c'est le budget, c'est la machinerie, et ça c'est évidemment important, et il y avait des réunions et un rapport assez régulier aussi avec Matignon et avec le SGDN et le directeur de cabinet de Matignon. Et puis il y a le ministère de la Défense, qui est en effet le ministère de tutelle d'une structure comme la DGSE, où là il y a une relation forte, puisque c'est le ministère de tutelle, même si il faut considérer que la présidence est toute plus importante, est très importante. Mais là, il y a un interlocuteur important, un cadre spécialisé, qu'on appelle le cabinet réservé. Il y a un conseiller spécialisé, quand j'étais, c'était le général Rondeau. Et il y a un accès régulier, normal, naturel, habituel au ministre pour discuter dans chaque fois qu'il y a un sujet, il est discuté avec les gens du ministère de la Défense. Donc, un rapport plus étroit avec le ministère de la Défense, ce qui est normal, parce que là aussi, le budget de la DGSE est un budget qui provient de la Défense, qu'une partie de ces hommes, et notamment toutes les structures d'action, sont des structures qui viennent du ministère de la Défense, et donc un rapport tout à fait large, tout à fait régulier, tout à fait important, même si, dans le système français, le président de la République est la source de la volonté politique, et donc est un interlocuteur fondamental, sans équivalent. C'est le président de la République qui dirige la politique française en matière de sécurité et en matière internationale.
Au moment où Jean-Claude Couserand quitte la DGSE en 2002, le service a été accusé d'avoir enquêté sur un supposé compte bancaire que Jacques Chirac aurait détenu au Japon. L'affaire, qui n'a jamais reçu la moindre confirmation mais a fait couler beaucoup d'encre, est emblématique du risque inhérent de la politisation du renseignement, particulièrement redouté en France, autant par les politiques que par les espions eux-mêmes.
Cela dit, on peut parler des États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a des... La politisation est un fait, elle existe, elle peut exister de différentes manières. Elle existe par ce qu'on appelle la politisation par le haut, c'est-à-dire la nomination d'amis politiques dans les services. C'est pas la tradition française. On nomme en général des hauts fonctionnaires de qualité. On ne met pas des amis. Mais c'est vrai qu'il y a eu, à certains moments, ce qu'on appelait la politisation par contournement. Monsieur de Grossouvre, Monsieur Focard, les gendarmes de l'Élysée, c'est des choses qui vont pas, sont pas tout à fait dans la même logique que l'idée de nommer des hauts fonctionnaires incontestables. Et au contraire, c'est un contournement. Il y a eu ce qu'on appelle aussi l'analyse complaisante. Ça, c'est, on a parlé de Rumsfeld, mais il y a le rapport Chilcot en Grande-Bretagne a montré que les services sur l'Irak avaient donné une version de ce qui se passait en Irak qu'on pouvait considérer comme étant plus optimiste qu'elle n'aurait dû être. Moi, je pense que les services sont très attachés à une conception fondamentale de leur travail. C'est l'idée qu'ils ne sont pas là pour faire de la diplomatie, qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique, qu'ils sont là pour apporter une information secrète, une information dissimulée, une information difficile à atteindre, et d'apporter ceci au gouvernement. Fondamentalement, c'est ça leur objectif. Et ils sont très attachés à l'intégrité de cette mission. Et donc l'idée d'en rajouter, l'idée de mettre en scène cela, l'idée de faire de la diplomatie, c'est pas tout à fait leur vision. Et même, ils sont assez négatifs sur cette vision. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir fournir de l'information, encore une fois, secrète, vérifiée, authentique.
Si la manipulation du renseignement à des fins politiques est le cauchemar des espions français, elle reste néanmoins la marotte des scénaristes. Fils du réalisateur Pierre Schoendoerfer, dont la 317e section reste le film favori des militaires français, le réalisateur Frédéric Schoendoerfer s'est essayé en 2004, avec son film Agent secret, à évoquer le fiasco du Rainbow Warrior, mettant en scène des espions qui doutent et des politiciens sans scrupules.
Qu'est-ce que tu espères, un cours de géopolitique ? Tu connais la loi, le secret. Il s'agit pas d'émotions ici, il s'agit d'affaires. D'affaires. Lipovski peut nous servir en Afrique, doit nous servir seulement, il a la tête dure. Il a fallu lui faire entrer dans le grain qu'on ne plaisantait pas, c'est ce qu'on a fait au Maroc. Maintenant qu'il a compris, on ne va pas laisser Mademoiselle Elena Standler tout foutre en l'air. Ni personne d'autre d'ailleurs. Écoute, George.
La prison. La prison, c'est une idée de vous ?
J'aime beaucoup Lisa. Tout se passera bien pour elle.
Et si elle refuse de collaborer ?
On ne lui demande pas de collaborer, on lui demande d'obéir. C'est une nuance qui semble échapper ces derniers temps. Voyons, quel est le problème, Georges ? Morale, éthique, comme on dit aujourd'hui ? Mais toi, ça ne t'a pas gêné de tuer la fille à Madrid ? Pour l'instant, je bloque l'enquête. Tu sais, moi aussi, je me demande si ce que je fais a un sens. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre. Seulement voilà, il y a une chose dont je suis sûr. J'aurais pas voulu vivre autrement, pour rien au monde.
Ce qui distingue l'homme du quadrupède, le livre aux yeux des prêtres, appétit démesuré, rien aux yeux des traîtres. Les girouettes qui lèchent le vent, prêchent devant, s'empressent de vendre, 17 des frères de sang. Pas de mystère, on ne cite que les gagnants ici, tous les coups sont permis. Au diable les vaillants, les braves, lâche, parler l'heure est grave. Ma voix en s'éraillant, s'aborde sciemment une bonne partie de l'ordre de mes phrases. Lors de mes rages, je les vois qui s'agitent et fomentent. Le fiel qu'il vomit s'appelle les nuages. Alors l'orage déploie son œuvre, accomplit ses ravages. Jette-moi ami dans la tourmente, je crois qu'en mes nerfs et ses pages. Aux esprits vifs, libérés des cages, la rectitude qui a sidéré les caves. Alors tout ça pour l'argent, putain, j'arrive pas à y croire. Garde ton verre propre, j'ai trop de mal à y boire. Mille facettes, autant d'hommes se dissimulent et font
apologie de la bêtise.
Vendre le fait que l'amour ou l'amitié se simule, c'est
anthologie de la traîtrise.
Mille facettes, autant d'hommes se dissimulent et font.
Méfiant envers ses services, l'État français n'a jamais pris soin d'encadrer leur organisation et leur activité, laissée volontairement floue. À la suite des attentats de 2015, volte-face historique. François Hollande fait voter au Parlement une grande loi sur le renseignement. Dernier pays à se doter d'un tel arsenal législatif, la France fait passer le renseignement d'une activité sans cadre à une politique publique presque comme les autres.
Avec la montée en puissance du renseignement, avec
Jean-Claude Cousserand,
la conviction qu'ont acquis un certain nombre de responsables de l'État que le renseignement était nécessaire, avec la normalisation des choses autour du renseignement, peu à peu, on est sorti du déni. Il est apparu que ce n'était pas tenable de dire que voilà, c'est un machin caché, c'est, on ne le connaît pas, ils sont ici ou là, mais voilà, ils ne sont pas, on ne peut pas les situer. Et qu'il fallait, au contraire, quelque chose de plus, et qu'il fallait un cadre, et un cadre politique, réglementaire, législatif autant que possible. C'est au Parlement qu'il revenait de faire cela. Et ça a été fait dans un certain nombre de pays, bien avant nous. Ça a été fait aux États-Unis dès 1947, hein, avec le National Security Act, avec en RFA, la loi de décembre 90, en Grande-Bretagne aussi, en mai 94, ils ont un Intelligence Security Act. Donc il y a, tous les autres pays font un certain nombre de choses de manière à sortir du déni et à dire, voilà, il est là, il fait ça. Il a telle et telle mission, il a telle et telle justification, et voilà. Et donc ce mouvement a fini par toucher la France, mais avec un grand retard. C'est d'ailleurs un peu surprenant qu'il ait fallu tant de temps et toute une espèce de processus. À l'été 2012, il y a un comité dirigé par le président de la Commission des lois, M. Urvoas, qui dit il faut un cadre juridique, il faut un rapport en disant ça serait bien d'avoir une loi. Il y a déjà un système de DPR, de délégation pour le renseignement, parlementaire pour le renseignement, qui dit, dans un rapport de 2014, il faut un texte, parce qu'on a besoin d'un cadre. Alors, ça a été un gros débat, cette idée, quand on est arrivé avec ce texte, et les différents textes ensuite sur le renseignement ou sur le terrorisme. Il y a eu un débat, et un débat justifié, un débat parfaitement conforme à ce que doit être un débat dans une démocratie. Alors avec des aspects excessifs, des aspects systématiques, ça c'est la nécessité du débat. Mais la loi était vraiment nécessaire, parce qu'on était le dernier pays, parce qu'il fallait le faire, parce que sur le plan européen, il est dit qu'il faut un texte. La convention de 1950 dit « les services sont admissibles, les actions des services sont justifiables, on peut comprendre ces choses-là, mais il ne faut pas que ce soit en l'air. Il faut que ce soit dans des procédures repérables, qu'on sache qui c'est, et des choses de ce genre. » Et donc déjà, des textes européens ratifiés par la France font obligation à la France d'avoir un système comme ça. On était donc très en retard, dans une situation un peu délicate, et tous les gens sérieux qui tournaient autour de cela se disaient qu'au fond, ça serait nécessaire. C'était pas dans nos habitudes, c'était pas une facilité, mais c'était quelque chose qui apparaissait une bonne raison. Et puis, il y avait beaucoup de raisons techniques. La multiplication de nouvelles technologies dont on pouvait se servir ou ne pas se servir, dont on se servait, mais sans qu'il y ait effectivement un cadrage politique, réglementaire, posait quand même un certain nombre de problèmes. On ne peut pas avoir un système, si vous voulez, qui ne définit pas la manière dont on peut utiliser tel ou tel type d'écoute, tel ou tel type de jeu ordinateur, de tel ou tel type de technique. Et ça, l'avantage de cette loi, c'est qu'elle a permis de préciser quels étaient les compétences et les conditions d'accès des services à tel ou tel type de matériel. Ça, c'était donc une nécessité technologique sur laquelle il fallait effectivement essayer d'avancer.
Cette loi, en fait, pour moi, c'était un moment très important aussi de mon passage à la DGSE, car
Bernard Bajolet.
Cette loi, nous en avions besoin, elle était indispensable, et la DGSE a beaucoup poussé pour l'obtenir. Pourquoi ? Eh bien, parce que jusque-là, on fonctionnait avec un petit bout de loi de 1991 sur les écoutes téléphoniques, mais qui avait été voté à un moment où il n'existait ni le portable, ni Internet. Et donc la jurisprudence de la commission qui était chargée de contrôler les services, la CNCIS, cette jurisprudence s'était adaptée, mais à un moment, elle était amenée à solliciter la loi au-delà de ce qui est tolérable dans la jurisprudence française. Et donc, prise de vertige par la jurisprudence qu'elle avait elle-même élaborée, dans le contexte de l'affaire Snowden, eh bien, la commission ne rendait plus d'avis. Elle était quasiment en grève. Donc, il fallait de toute façon faire une loi. Et puis, l'autre raison, c'est que, face au flou juridique, les agents de mon service, notamment ceux qui travaillaient dans le domaine technique, avaient besoin de savoir ce qu'était la loi française, ce qu'était le droit. Car contrairement à ce qu'on peut penser, les agents des services, eh bien, ne sont pas des gens qui souhaitent contourner la loi. Au contraire, en tout cas la loi française. Ils ont absolument besoin de la loi, d'un encadrement législatif, pour des raisons de sécurité juridique. Donc il y avait aussi un besoin, une demande à l'intérieur de mon service. Et donc il a fallu convaincre le président de la République, hein, François Hollande, qui n'était pas du tout enthousiaste au départ parce que ça ne faisait pas partie de son programme de campagne. Et puis, c'est un débat qui est un débat très, très compliqué. Et au fond, on a abouti à cette loi, ou même il y en a eu deux, comme vous savez, parce que une partie, d'ailleurs celle qui nous intéressait le plus, la surveillance internationale, a d'abord été annulée par le Conseil constitutionnel. Il a fallu reprendre notre ouvrage. Bon, et tout ce qui résulte de ça est... je pense maintenant très très positif. On a une loi très précise. Je ne pense pas même qu'il existe au monde une loi plus précise que celle-là, même si elle fait encore l'objet de contestations. Elle est même tellement précise que les contrôles sont parfois tellement lourds que certaines des capacités en ont été affectées. Alors je ne vais pas dire lesquelles, si vous voulez, mais c'était un peu le prix à payer. Mais je pense que c'était extrêmement important aussi pour rassurer les Français que dès lors que les services ont plus de moyens, la DGSE a des moyens considérables, eh bien il y ait en même temps des contrôles qui soient des contrôles plus effectifs et qui assurent une vraie protection du citoyen.
Mais la loi, elle a eu une série d'autres avantages. Elle désigne les services, elle dit voilà, la communauté française du renseignement, les gens des services en France, c'est telle ou telle machine, tel service, telle institution. Elle définit les domaines dans lesquels ils peuvent agir. Elle définit les raisons qu'elles peuvent avoir d'agir. Et ça, c'est tout à fait important. Elle donne un certain nombre de finalités. Finalités économiques, finalités scientifiques. Il y a une série de choses. Le texte de la loi est d'ailleurs très, très intéressant. Et puis, elle définit une procédure d'autorisation et pas une procédure en l'air. C'est autorisation du Premier ministre formel. Et autorisation sur la base d'un avis d'une autorité administrative indépendante, et puis avec un système de contrôle par le Conseil d'État très largement ouvert, où des citoyens intéressés peuvent tout à fait saisir le Conseil d'État en disant « j'ai l'impression qu'on m'écoute d'une manière illégale ». Et donc il y a quand même un cadre, la loi apporte un certain nombre de garanties et un certain nombre de thèmes. Bon, elle a été contestée très sévèrement discuté sur trois points. Le premier point était annoncé comme la légalisation de la surveillance de masse, un peu excessif et un peu ample comme vision. L'idée d'un danger technique est d'avoir accrédité la capacité pour les services d'utiliser un certain nombre de techniques que les gens jugent, qu'un certain nombre de gens ont jugé excessives. Bon, il y a les IMSI catcher, mais qui sont des systèmes de surveillance des téléphones. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est-à-dire des algorithmes de comportement qui ont été en effet utilisés parce que les systèmes numériques permettent en effet d'identifier ce qui sort du comportement de 95% de la population. Et tout d'un coup, il y a quelques personnes ou quelques actes, actions qui révèlent statistiquement des comportements différents. Et donc ces algorithmes de comportement ont été jugés comme très attentatoires aux libertés publiques. Et il y a eu un débat tout à fait important. Et là, ça sera à la jurisprudence de regarder. Et puis, troisième point qui était important, le système donnait un pouvoir de contrôle au juge administratif, c'est-à-dire le Conseil d'État. Ça avait été très fortement contesté, comme souvent par les gens plus proches du pouvoir judiciaire et par notamment les associations d'avocats et les associations de professeurs de droit privé. Ce qui est normal, ce qui est encore le cadre nécessaire et normal d'un débat démocratique.
Il est agent secret, mon âme, c'est pour de vrai. Je le vois peu, c'est normal, sa vie n'est pas banale. Quand il rentre de mission, il ne sent jamais.
La loi renseignement de 2015 a certes renforcé le contrôle administratif sur les écoutes et les interceptions électroniques, et ce par le biais de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mais en revanche, et à rebours des règles en vigueur dans plusieurs autres grandes démocraties occidentales, le contrôle que le Parlement français exerce sur l'activité quotidienne des espions commence tout juste à monter en puissance.
Loïc Kervran est l'un des rares députés passionnés par le renseignement. Nous recevons dans son petit bureau de l'Assemblée nationale ce membre de la délégation parlementaire au renseignement et de la commission de vérification des fonds spéciaux déplore le manque d'ambition de la représentation nationale sur le sujet.
Si je pouvais changer une chose, améliorer une chose, c'est sur les moyens humains qui sont à disposition des organes de contrôle parlementaire. L'urgence, elle est dans le staffing, dans les ressources humaines, les administrateurs de l'Assemblée et du Sénat qui sont mis à disposition de ces commissions de contrôle. Aujourd'hui, ces ressources sont trop faibles en nombre et à mon avis, c'est là l'enjeu principal. Il y a un vrai sujet de nombre puisque côté Assemblée nationale, on est à 0,5 ETP qui est partagé entre la délégation renseignement et la commission des fonds spéciaux. Et puis côté Sénat, ce sont trois administrateurs, mais qui sont partagés avec des commissions qui sont très exigeantes, notamment la commission des lois.
Le désintérêt des députés s'explique notamment par le fait que, contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, le renseignement, en France, n'est pas un sujet sur lequel on peut capitaliser politiquement.
Quand l'Express publie, par exemple, son classement, je dis Express, n'importe quel autre, publie son classement des députés, voilà, mathématiquement, non seulement vous avez fait un travail invisible, mais en plus vous avez été présent à moins de commissions, vous avez fait moins d'interventions dans l'hémicycle, vous êtes classé plus bas. Je pense que le contrôle des services par le Parlement, par les élus, est vraiment vital pour la démocratie. On est dans une société où on a conféré depuis quelques années des pouvoirs importants aux services, et donc il faut absolument que ça aille avec son corollaire, qui est le contrôle parlementaire.
Peu mobilisateur à l'Assemblée, le contrôle parlementaire n'est pas non plus populaire au sein des services, toujours prompt à craindre une trop grande ingérence des députés dans leurs mécaniques internes.
On voit bien que les gens des services veulent préserver un certain nombre de choses. Les opérations, mais là ils sont comme les militaires et comme plusieurs autres structures. Et puis, plus important, les sources et les méthodologies. Et c'est vrai que les services souhaite que ça, les sources et les méthodologies soient totalement préservées, ne puissent pas faire l'objet de quelconque entrée ou vision de ces choses-là ou débat sur ces questions-là. Ça, c'est le cœur, disent-ils, de leur métier, de leur sécurité et de leur capacité à exercer leur mission. Ce sont en effet des milieux différents, ce sont des logiques différentes. La logique de contrôle démocratique de l'État est une logique. La logique de sécurité des services est une logique. Il faut que ces gens apprennent à se parler, se parlent et peu à peu créent une relation qui permette aux uns d'effectivement de contrôler la politique du gouvernement à l'égard des services, autant que les services, mais la politique du gouvernement, qui elle doit être contrôlée, et que les gens des services puissent être libres de gérer leurs affaires, ou en tout cas le cœur de ce qui constitue leur mission, leur fonction, en tout cas la protection de leur sécurité à eux, soit préservée. Là, il ne faut pas considérer que les choses sont impossibles, les choses sont difficiles. Mais en démocratie, les conciliations sont difficiles.
C'est moi l'agent secret vêtu de noir qui s'en va chasser l'amour, la mort. J'accomplis mon devoir. Je vole tous les secrets, la nuit sans bruit, marchant à pas de loup. J'accomplis mon devoir. Belle escogne, l'heure est venue. Oui, vous avez tout perdu. Je vous tiens entre mes bras. Peut-être pour vous caresser, ou bien pour vous étrangler. Belle escogne, l'heure est venue. Je vole tous les secrets, la nuit sans bruit.
En plus de la loi sur le renseignement, le dernier quinquennat a vu progressivement apparaître un nouvel organe, informel comme les aiment les espions, le Conseil de défense, qui prend peu à peu les atours d'un Conseil de sécurité nationale qui ne dirait pas son nom.
C'est à partir des attentats de janvier 2015, donc contre Charlie Hebdo, que le président de la République a décidé de réunir toutes les semaines le Conseil de défense. Conseil de défense auquel participe, comme vous le savez, le président, le premier ministre, le ministre de la Défense, Affaires étrangères, Intérieures, le chef d'état-major des armées, les directeurs de la DGSE, de la DGSI, le coordonnateur national du renseignement. Et ça, c'est une instance qui est devenue extrêmement importante parce que, donc, se réunissant toutes les semaines, c'est une façon aussi pour les participants, dont le DGSE, d'exprimer un point de vue et d'avoir de vrais débats. On avait de vrais débats dans cette instance, et ensuite c'est le président de la République, bien sûr, qui a arrêté les orientations. Et en somme, et sans qu'on ne l'ait écrit ni prévu, eh bien, s'est instauré en France une sorte de Conseil national de sécurité qui ne disait pas son nom. Et je comprends que bon, Emmanuel Macron a poursuivi cette façon de travailler. J'ai assisté à un conseil, d'ailleurs présidé par lui. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il l'a systématisé, c'est-à-dire a renforcé à la fois la préparation de ces conseils et puis d'autre part la mise en œuvre des décisions qui y sont prises.
Bernard Bajolet a également profité de son passage à la tête du service pour porter des réformes internes.
Et puis ça a été aussi, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire, une grande période de réformes. Parce que même si je vous disais que j'avais trouvé un service de grande qualité et professionnel, il y avait quand même beaucoup de choses à réformer en termes d'organisation. Bon, j'ai voulu renforcer le renseignement humain, parce que la prégnance du technique fait qu'on peut être tenté de mettre l'accent sur le technique et moins sur l'humain, qui est plus dangereux, qui est plus délicat, qui est plus aléatoire. Mais sans le renseignement humain, on ne fait rien. Mais aussi la remise au travail du service action qui s'entraînait beaucoup mais finalement était relativement peu employé. On a redéfini aussi les missions du service action par rapport en particulier aux forces spéciales afin d'éviter qu'il y ait une confusion entre les tâches des uns et des autres mais une complémentarité aussi grande que possible, etc.
Voile en soie couvre ses yeux. Quel est le feu qui brûle en eux? Vient-il du Gange? Ce rite étrange. Quelle importance quand elle danse?
Ce que Bernard Bajolet présente comme un léger ajustement entre le service action, le bras armé clandestin de la DGSE et les forces spéciales, les commandos de l'armée qui opèrent sous uniforme, a en réalité été l'occasion d'un véritable bras de fer entre le service et les armées. À cette époque, en Libye, le service action opérait à Benghazi, auprès du maréchal Haftar, tandis que des hommes des forces spéciales étaient déployés à Tripoli pour épauler le gouvernement rival de Fayez Sarraj. Il faut qu'elle gagne pendant la guerre. Pour la première fois de son histoire, la DGSE est sexy, elle fait vendre. En cette rentrée, toute une série d'ouvrages diversement inspirés sur les petits et grands secrets des espions de la République vont se bousculer sur les étals des libraires.
Cette fièvre éditoriale sur le renseignement français est le résultat de la communication active que mène la DGSE depuis une dizaine d'années. Finalement, pour le député européen Arnaud Danjean, les derniers à donner une mauvaise image du service sont certains vétérans qui courent les plateaux télé à chaque attentat sans pour autant disposer de la moindre information sur les crises qu'ils commentent.
Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs pour des politiques, d'anciens de la DGSE se considèrent omniscients sur toutes les questions de sécurité. Moi, je décline énormément de sollicitations. D'abord parce que ça fait longtemps que je ne suis plus à la DGSE, premièrement. Et deuxièmement, parce que quand j'étais à la DGSE, je n'étais pas un spécialiste du contre-espionnage ou du contre-terrorisme. Alors, sans doute, je le suis un peu plus par... capillarité et par connivence avec certains collègues, je le suis un peu plus qu'un homme politique lambda, mais en tout cas je ne me sens pas autorisé à donner mon avis sur tout, simplement parce que j'ai passé une douzaine d'années à la DGSE. Il devrait y avoir un travail de suivi des anciens, un peu plus fort aussi. On retrouve des conquis de cette maison, une liberté qui est peut-être un peu excessive, il faut bien le dire. Enfin, c'est normal qu'on ait notre totale liberté de parole ou autre, mais quand moi j'ai vu des anciens cadres écrire des livres dans lesquels ils révèlent des sources, c'est ahurissant. Donc il n'y a pas simplement la sanction pénale. Il devrait y avoir aussi en amont un dialogue avec les intéressés pour leur dire « Mais attendez, vous ne pouvez pas publier des choses comme ça. » Et je pense quand même que quand on est passé par cette maison, alors sauf si on l'a quitté vraiment dans très 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 mauvais termes, je pense qu'il y a moyen d'avoir quand même un dialogue et une conscience professionnelle qui perdure. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas réglé. Bon, ensuite, vous ne pouvez pas empêcher qui que ce soit de s'exprimer dans les médias. Aux médias aussi de faire le tri parce qu'on arrive quand même assez vite à se rendre compte qui sont les escrocs et qui sont les gens sérieux. Et puis l'autocontrôle, moi je suis sans doute un peu naïf, mais c'est une des qualités d'ailleurs qu'on développe dans cette maison, c'est que il y a effectivement des contrôles extérieurs, il y a de l'inspection, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a des hiérarchies, beaucoup, on a tendance à l'oublier, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, quand on est à la DGSE évidemment, mais je pense que la notion d'autocontrôle est très forte aussi, quand on choisit ce métier, quand on choisit cette filière professionnelle, on a quand même un certain nombre de valeurs chevillées au corps, et l'autocontrôle, la rigueur intellectuelle et personnelle devrait faire partie de ces vertus, et on devrait pas les oublier dès lors qu'on quitte le service. Et donc moi j'aimerais que beaucoup d'anciens collègues réfléchissent à deux fois avant de se précipiter sur les plateaux télé.
Pour juguler les fantasmes, la DGSE va participer à l'automne à une exposition inédite, sobrement intitulée Espion, à la Cité des sciences de la Villette, à Paris. Inédite car tout entière consacrée non pas à l'histoire de l'espionnage, mais au renseignement contemporain. Les deux commissaires de l'exposition, Laurence Connésil et Géraldine Attier, retracent la genèse de sa création.
Nous avons comme partenaires les six services dits du premier cercle, DGSI, DGSE, DRM, DRSD, DNRED et TRACFIN. Et donc nous avons souhaité aborder le renseignement contemporain, c'est-à-dire ici nous sommes à la Cité des sciences et de l'industrie, donc on parlait du point de vue des techniques, des technologies qui mettent en œuvre actuellement. Évidemment, très vite, on s'est heurté à la difficulté du secret, en fait. Comment on expose le secret? Comment on expose quelque chose qui, par définition, ne peut pas être exposé sur la place publique? Donc, pour cela, on a décidé d'aller chercher les compétences du Bureau des légendes et on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on va parler des services de renseignement d'État, mais cette fois-ci du point de vue de leur démarche, comment ils s'organisent, et pour pouvoir le mettre en scène, on va travailler avec les scénaristes et les décorateurs du Bureau des légendes pour créer un cas fictif d'espionnage. Et cela permettra à nos visiteurs de se plonger dans une histoire de contre-espionnage et donc d'en découvrir les ressorts.
Dès lors qu'ils vont passer l'entrée de l'exposition, ils vont vraiment quitter l'espace muséal et se sentir dans un milieu où tout le monde n'a pas accès. Ils vont rentrer par des portiques, des sas de sécurité, il y a des gardes. Enfin, on sent bien qu'on est dans un espace très protégé. Et ils vont assister à un grand brief, donc présenté par les acteurs qui représentent les 6 services de renseignement. Il y a eu, je peux dévoiler un petit peu le scénario, il y a eu une explosion nucléaire en République occidentale, donc un pays fictif, et donc le président de la République demande une note de renseignement au service. Donc à partir de là, le visiteur va rentrer dans la peau d'un agent de renseignement, enfin d'un agent entre guillemets parce qu'il va endosser le rôle de nombreux agents de renseignement, il va faire de l'analyse sonore, de la crypto, il va faire de la filature, etc., du désilouettage. Il va donc récolter tout plein d'informations jusqu'au dénouement qui aura lieu dans le centre de situation à la fin.
Pour les services, l'intérêt est double, se montrer et mieux recruter.
Alors, je crois que la motivation, elle vient d'un, on va dire un peu d'une opportunité de calendrier. C'est-à-dire que actuellement, les services de renseignement français ont besoin de recruter. Pour pouvoir recruter, encore faut-il être connu. Donc, ils ont besoin de communiquer. On va dire que, contrairement aux pays anglo-saxons, il n'y a pas véritablement de culture du renseignement en France. Donc, ils ont besoin de se faire connaître. Et nous, on a surfé là-dessus pour leur dire, écoutez, en vous faisant connaître, voilà, vous pourrez recruter de façon plus intéressante.
Clou de l'exposition, un véritable IMSI catcher, cet appareil qui a fait couler beaucoup d'encre et qui sert à intercepter les communications téléphoniques, y sera montré. La demande pour exposer un tel objet, gadget des plus secrets, serait remonté jusqu'à Matignon.
Les pousses d'inutiles regrets au fond de nos jardins secrets, et dans leur coin le vieux remords 20 ans après fleurissent encore. Ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne, à personne.
Merci à Bernard Bajolet, Jean-Claude Cousserand, Arnaud Dangean, Loïc Carvran, Géraldine Attier et Laurence Conezil.
Ces fleurs clandestines tirent leur sève, des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne. Des choses qu'on ne peut dire à personne.
C'est ainsi que s'achève notre tour du monde de l'espionnage qui nous aura emmenés à Londres, Washington, Moscou, Berlin, Pékin, Tel Aviv, Alger et Paris. Merci à tous les maîtres espions qui ont accepté de témoigner et aux voix de France Culture.
Ni ne se pardonne les choses qu'on ne peut dire à personne. À quoi servent les vieux regrets que l'on n'exprimera jamais? Pourquoi donc tous ces 20 remords?